Et bonjour les amis, bienvenue sur Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Merci encore une fois, vous avez été très nombreux à vous procurer la BD. Je vous le dirai à chaque début de podcast. Merci les amis. Petite information. La semaine prochaine, je suis en déplacement, donc je ne pourrai pas vous enregistrer de podcast, mais rassurez-vous, vous aurez une vidéo à la place, hein, parce qu'en général, quand je ne peux pas, c'est une règle que je vais instaurer, quand je ne peux pas enregistrer de podcast, je ne vous laisse pas orphelin de ma présence gouroutique. Et je vous mets à disposition, enfin je me débrouille pour qu'il y ait une vidéo qui sorte à ce moment-là. Donc il y aura une vidéo qui sortira à ce moment-là. Voilà, comme ça vous aurez pas de trou dans les, disons, dans les interventions que je peux faire. Voilà, que ce soit en podcast ou en vidéo. Les amis, il faut que je vous parle d'un petit péché mignon que j'ai, qui remonte à assez longtemps. Ça remonte à quand j'étais gosse. Et vous savez, dans les années 90, il y avait que 6 chaînes de télé. Vous aviez une chaîne régionale, mais bon, c'était de la merde. Enfin, nous, on avait TLT, Télé Toulouse, et c'était pas franchement folichon. Il y avait jamais de films le soir et tout. Enfin, c'était merdique. Il y avait des programmes un peu dégueux, mais bon, c'était un peu de la merde. Donc, vous aviez la 1, la 2, la 3. Vous aviez la 4 qui était cryptée le plus souvent, donc pas de films le soir. Vous aviez, enfin, à part pour ceux qui avaient Canal+, parce qu'à l'époque, pour avoir la quatrième chaîne, il fallait avoir Canal+. Donc, nous, on avait 1, 2, 3. La classe moyenne, je parle en général, hein. Et après, on avait 5-6. Voilà. Et on avait 5 chaînes, en fait. Plus la chaîne régionale. Donc, c'était Télé Toulouse. Je sais que tu avais une télé lyonnaise aussi. Tu avais, bon, en fonction des régions, au Pays Basque aussi, il y avait un truc. Bon, en fonction des régions, tu avais un canal de plus. Mais c'était ça, quoi. Tu avais 5 chaînes. Donc, tu regardais très souvent les programmes que regardait ton père en attendant qu'il y ait un dessin animé ou Texas Walker Ranger ou Highlander. Moi, j'étais très, très fan d'Highlander. Vraiment, j'adorais ça. J'aimais beaucoup le côté daron en imperméable avec des petites... Ce que je préférais, c'était des espèces de flashbacks qu'il y avait. Pour ceux qui ont connu, je ne vais pas m'étendre dessus, mais pour ceux qui ont connu, dans les épisodes d'Highlander, comme il est immortel, il y avait des références, des souvenirs qui émergeaient dans son esprit, des souvenirs qui nous étaient montrés à l'écran, où on voyageait dans le temps. Alors à l'époque, je trouvais ça super épique. Récemment, j'ai re-regardé un épisode d'Highlander, c'est vraiment très très faible niveau budget, quoi. C'est vraiment... Bon après, c'était franco... Je sais pas si c'était pas franco, américano, canadien. Enfin, il y avait un peu de thunes de tout le monde, mais personne mettait beaucoup. Donc du coup, la série était géniale, l'acteur... principal était absolument Adrian Paul, et je crois que c'était Adrian Paul, ouais, il était absolument incroyable, il était très bon, il avait cette espèce de côté un petit peu stoïque qui était génial. Bon, il avait un catogan, mais j'adorais ses impairs. Bon, son catogan, je le trouvais stylé aussi, hein, on va pas se mentir. J'étais loin d'imaginer que je serais chauve un jour. Il vivait sur une péniche à Paris à partir de la saison 2, je crois. Il vivait dans un appart à Chicago. Donc, Highlander, il doit décapiter d'autres Highlanders pour récupérer leur pouvoir. Enfin, c'était incroyable. Et donc, je me rappelle, il y avait des espèces comme ça de flashbacks de ses vies antérieures. Avec des mecs, d'autres Highlanders, d'autres immortels qu'il avait croisés à tel endroit, à tel moment, bon bref. Et si vous voulez, c'était une série comme ça de temps en temps. Alors c'était le soir, donc tu avais, alors ça dépendait des périodes, mais tu avais Sliders, tu avais des trucs comme ça, alors là j'étais un petit peu plus grand, j'étais plus collégien, enfin c'était la fin du collège, mais tu avais Stargate, bon on geekait tous là-dessus. Et en fait, si tu veux, pour tomber sur ces programmes-là, il fallait te taper tout le reste. Donc moi, mon daron, ben, c'était un mec qui était politisé. Mon père, il était beaucoup dans la politique. Enfin, il s'intéressait beaucoup à la politique. Il s'intéressait aussi également énormément à c'était quelqu'un de très cultivé. Il lisait beaucoup, mon père. Gros lecteur. Il continue de lire toujours, d'ailleurs. Hein, je vous rassure, il est toujours là, grâce à Dieu. J'espère pour le plus longtemps possible. Et ce vieux communiste, mais je l'aime bien quand même, je l'aime tout court même. Et donc, c'est vrai que mon père adorait les documentaires, surtout qu'à l'époque, dans les années 90, il y avait vraiment de très très bons programmes qui étaient encore faits par des journalistes qui étaient, de la vieille école, c'était pas encore des trous du cul qui vont en école de journalisme, qui sont des mecs qui se déplacent en trottinette. T'avais encore des types, alors c'était déjà de la merde, hein, le métier journalistique dans les années 90, ça faut pas croire. Mais tu avais encore un gros substrat de journalistes qui étaient des gens qui étaient extrêmement attachés au terrain, avec des reporters qui mouraient. Hein. T'avais des reporters de guerre qui mouraient. Ça arrive de moins en moins parce qu'aujourd'hui déjà les guerres, bon, elles se font en drone, donc t'as plus besoin d'envoyer des types avec des fantassins prendre des photos d'Africains qui tirent avec des calibres surdimensionnés sur des enfants dans des écoles. Mais si vous voulez, il y avait comme ça encore de disponibles à la télé très tard le soir parce que j'avais le droit de veiller, très tard, 11h, minuit, quoi, allez, jusqu'à 1h du matin. Tu avais des documentaires qui étaient d'une exceptionnelle qualité. Alors, tu avais des reportages thématiques, comme par exemple dans l'émission de Thalassa. Ceux qui sont nés dans les années 80 ou 90 ont peut-être connu ou se rappellent. Enfin, ceux qui sont nés dans les années 80 s'en rappellent tous. Peut-être ceux qui sont nés un petit peu plus tard, moins, je ne me rends pas compte. Mais Thalassa, typiquement, c'était exceptionnel. C'était un programme télé. D'ailleurs, il y avait un très, très, très beau générique, magnifique, qui amenait, en fait, le c'était vraiment un... C'était, il y avait Faut pas rêver. Juste après Thalassa, il y avait Faut pas rêver. Donc, il y avait comme ça une nuit entière, enfin, une soirée entière de documentaires. Et tu vagabondais comme ça de tel endroit de la Terre jusqu'à tel autre. Enfin, c'était très, très beau, très, très bien fait. C'était absolument sublime. Et c'était, je me rappelle, des documentaires qui étaient faits encore par des journalistes de terrain. Mais des vrais journalistes de terrain impliqués dans ce qu'ils faisaient. Puis tu sentais que les types, ils avaient une connaissance des locaux. Par exemple, tu avais des documentaires qui se passaient en Russie, qui pouvaient se passer sur le lac Baïkal, sur... dans le sud-est asiatique, dans les mers de Chine, dans les fjords et tout. Et à chaque fois, les équipes journalistiques, tu sentais qu'il y avait eu un travail d'investigation. Il y avait un ancrage très, très prégnant. Bon, c'était pas des fils de pute en trottinette, voilà. Parce qu'en fait, là, j'essaie de vous brosser le portrait stylé des journalistes anciennes. C'était des mecs, ils avaient des marinières, d'accord, avec des espèces de, avec des vestes en jean. Oui, ils avaient la petite boucle d'oreille avec la gueule de technicien, mais en fait, ça allait. Voilà, c'était des mecs de gauche, des techniciens. Encore, je sais pas s'ils étaient complètement de gauche, mais c'était des techniciens, quoi, là. Aujourd'hui, c'est c'est des types, si tu veux, il y a le côté pigiste qui vit dans le centre de Paris et qui regarde sur Wikipédia qu'est-ce qu'il faut dire de telle situation. En fait, il regarde ce que les autres journalistes ont dit pour pouvoir dire quelque chose. Et ça, c'est infernal, en fait. Il n'y a vraiment plus aucun fils de pute qui est capable de produire un avis, voilà, un avis qui ne passe pas par le tamis de la direction, de la rédaction, de je sais pas quoi. Il y avait encore des mecs qui parlaient, ils disaient leur avis. Ben, typiquement, Jean-Pierre Pernaut. Bon, Jean-Pierre Pernaut, on était quand même sur une ambiance PMU 11h du soir. Quand il disait certains mots, comme par exemple les Arabes, tu sentais quand même, tu sentais quand même qu'il y avait du ballon de rouge, il y avait du ballon de rouge. Mais ça, c'est la France qu'on aime. Oui, oui, ça dérape. Franchement, ça dérape. Des fois, ça dérape salement. Des fois, il y a un côté mec sou qui te sort un truc raciste, mais c'est abominable parce que le mec, t'es, comme il est trop sou, il arrive plus à produire du racisme lumineux. C'est plus du racisme rigolo. C'est vraiment le rat du racisme d'en bas, en fait. C'est vraiment le truc. Le mec te lâche sa vanne raciste, tu sais même pas si c'est une vanne, en fait. Je suis sûr que vous les avez connus, ceux-là, putain. Dans les années 80-90. T'en avais plein dans les bars, enfin 80, je me rappelle pas, j'allais pas dans les bars à 4 ans, puisque moi je suis né en 86, donc c'est surtout les années 90, donc je me rappelle. Mais dans les années 90, je peux te dire que t'en avais des mecs comme ça qui étaient au bar. Et en plus, ils se rappelaient plus des blagues. En fait, les mecs voulaient te raconter une blague raciste, ils avaient oublié la chute, donc il y avait juste le racisme sans la chute. Et puis, ils confondaient les blagues. Les mecs confondaient les blagues, en fait. Eh, comment on fait rentrer 4 arabes dans une 4L ? Parce qu'en fait, c'est pas ça. Comment on fait rentrer 4 juifs dans une 4L ? Bon, je vous le dis pas parce que le truc va sauter dans le cendrier. Mais voilà, bon, c'était des vannes de ce style-là. qui étaient toujours des références à des trucs horribles. Alors, c'était soit la Shoah, soit des références à la guerre d'Algérie, soit des références à la colonisation avec des Noirs. Il leur arrivait des trucs avec, avec des pirogues, je sais pas quoi, mais c'était des blagues de 1910, en fait. Non, mais il faut bien comprendre que les blagues racistes des années 80-90, parce qu'entre-temps, quand même, il y a eu tout un travail qui a été fait pour qu'on arrête de les raconter. Enfin, en tout cas, à la télé. Mais dans les années 80-90, les vannes racistes, c'était les vannes racistes de l'époque de la colonisation. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs qui lâchaient ces blagues-là, oui, faire une pirogue avec la peau des fesses de sa femme, il y avait des trucs horribles comme ça, putain, sur les Noirs. Et c'était des blagues, mais qui nous venaient de la Troisième République, en fait. Des mecs avec des rouflaquettes, le casque colonial français là qu'on appelle le pain de sucre là tout blanc, l'uniforme bleu, le pantalon blanc là de Spahi, je sais pas quoi, la pipe, hein, ah mon brave, tu vois, c'était vraiment des vannes de cette époque-là. Donc déjà dans les années 80-90, elles étaient un peu rances, hein. Elles sentaient un peu le vieux fromage, hein, si tu veux. Elles avaient été inventées à une époque où les Français, ils votaient pas Jospin, si tu veux. Ils votaient pas Macron, quoi. Donc, je me rappelle, moi, dans les bars ou à la pétanque, avoir entendu des mecs de 60, 70, 80 balais lâcher, bon, même les gosses, hein, parce qu'on les répétait, du coup, mais lâcher des blagues, elles sont inaudibles. Aujourd'hui, elles sont inaudibles. Aujourd'hui, elles sont insortables. Aujourd'hui, c'est fini. Jamais aucune femme ne t'adressera la parole après que t'aies sorti cette vanne publiquement sur Internet. Il y avait vraiment des trucs, c'était... Je peux pas les raconter, ça va faire sauter le podcast, c'est pas le but. Mais il y avait des trucs, c'était rance. C'était vraiment... les mecs, ils étaient accoudés comme ça. Ils avaient bu 28 verres de rouge pour oublier la guerre d'Algérie. Ils étaient en train de boire. Eh, tu sais comment on fait? Parce que ça démarrait très fort. Parce que ça, c'est un truc... Ça, c'est un truc du mec au comptoir. C'est que le début de la phrase... Hop, il démarre. C'est comme une putain de fusée. C'est-à-dire pour combattre la gravité, bon là c'est pour combattre l'alcool, la poussée initiale elle est stratosphérique. C'est-à-dire qu'un alcoolo qui va te raconter une blague raciste, la première syllabe elle est hyper forte. Et en plus c'est pas une bonne idée parce que du coup tout le monde écoute, hein, et après le mec il va te lâcher une horreur. T'sais. Donc c'était... il y avait la tête un peu prostrée comme ça en regardant un ballon de rouge. Alors les bars à l'époque étaient infernaux. T'avais des putes parce que c'était la France à l'ancienne. C'était la France avec l'autocollant FR. Sur le cul des bagnoles. C'était ça, hein. C'était les mecs en impair. Les putes avec des manteaux en fourrure, en simili fourrure, qui venaient boire des cafés à la gare. C'était hardcore, hein. Moi, je me rappelle, il y avait un café à côté du cinéma. Mon père, le samedi soir, il m'a amené au cinéma, qui n'existe plus, qui a été détruit d'ailleurs. Petite larmichette. Le cinéma UGC. UGC de Toulouse Wilson. Ceux qui sont de Toulouse, ils connaissent, hein, c'était vraiment un monument. Donc, jusqu'à très très tard, ce cinéma, il était très vétuste. T'avais des espèces de strapontins qui étaient éclatés. Et à l'époque, dans les années 90, t'avais un bar à côté. Et t'avais de tout. Alors, ils vendaient des clopes, ils vendaient de l'alcool, ils vendaient des briquets, ils vendaient des couteaux, ils vendaient des... Enfin, voilà, un bureau de tabac, quoi. Enfin, c'était bar, bureau de tabac, c'était très très particulier. Mais bureau de tabac des années 90, c'est-à-dire qu'en fait... ton père t'amène boire un coup là-dedans, tu lèves les yeux, il y a des meufs en train de se faire exploser l'oignon, parce qu'à l'époque, les trucs de cul étaient en... ils étaient en rayon, si tu veux. Et dans des quartiers comme Wilson, mais t'avais beaucoup plus de pornographie qu'ailleurs. Donc tu allais dans le... Moi, mon daron, il s'en foutait, il le voyait même pas, lui, il rentrait dans l'espèce de... C'était pas un PMU, c'était un bureau de tabac bar. Voilà, c'était un truc un peu comme ça. Ça existe encore, hein, ce concept. Hein. Mais à l'époque, c'était très, très développé. Dans les années 80-90, les bars étaient tous à moitié buralistes, enfin, dans mes souvenirs. Peut-être que je dis une énorme connerie, que c'était très, très peu. Mais dans mon souvenir, c'était un truc qui était très répandu. Ou alors, peut-être que c'est mon daron qui m'a amené des trucs comme ça et tout. Et tu croisais vraiment des oiseaux. Mais tu croisais des oiseaux. Bon, déjà, c'est là où t'entendais les vannes d'un racisme infernal. Déjà. Et puis, tu voyais des situations. Tu voyais des personnages. Je crois que, avant Hulk Hogan, ce qui m'a rendu de droite, c'est les bars à Toulouse, en fait. Quand je voyais la faune qu'il y avait dedans, déjà, c'était des gens que je comprenais pas, donc j'avais un petit réflexe de petit enfant un peu gros. Je voulais qu'ils meurent. Oh putain, le petit tyran, quoi. Je ne comprends pas ces gens-là, ils ont l'air pauvres, brûlez-les. Putain, l'arabe obèse, quoi. Oh, je n'aime pas la tête de ces gens, brûlez-les. Putain, là, j'ai des profils qui me reviennent en tête. Il y avait des mecs, mais si tu veux, un bar de nuit dans les années début 90, mais tu croisais des oiseaux, mais quand j'y pense, le décalage avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans les gares, tu as toujours des cassos, hein, ça n'a pas changé, c'est la réunion des cassos. Mais il y avait un type de cassos, il y avait une marque de cassos, il y avait une espèce de cassos qui n'existe plus, en fait. Ils ont disparu. Sociologiquement, c'est fini, cela. Ou alors, ils ont muté, ou ils ont été remplacés par d'autres cassos, par d'autres profils. Mais si tu veux, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas dans une gare de nuit, tu croises des clans d'eau, en fait, essentiellement. Tu croises des clans d'eau qui sont sous, qui parlent à un mur, ou qui insultent les gens en arabe. tu vois des noirs avec les yeux rouges. Tu vois des clochards blancs avec 28 chiens. oui, parce que le blanc, quand il devient pauvre, c'est pas... Le blanc, quand il devient pauvre, en fait, chaque fois qu'il perd un euro, il perd un siècle. Donc, en fait, les mecs se remettent à vivre comme à la préhistoire. Ils dorment dehors avec des couvertures. Ils se fabriquent des tentes avec ce qu'ils trouvent. Ils ont 8 clébards. Tu sais, c'est la chasse au mésolithique, en fait. C'est les mecs... Il y a un côté... Bon, je perds mon argent, donc je perds en fait les acquis de la civilisation, donc en fait je vais redevenir un chasseur-cueilleur. Sauf que la seule chose que tu peux cueillir dans les gares la nuit, c'est des embrouilles en fait, c'est des embrouilles ou de la drogue. Bon bref, et donc du coup tu as ça aujourd'hui, mais à l'époque, dans les années 90, début des années 90, mais le vivier des milieux interlopes, comme on dit en sociologie, le vivier des milieux nyctalopes, il est rigolo ce mot nyctalope, il était vraiment, mais c'était tutti frutti, c'était une poche de dragibus et dedans il y avait de tout, mais c'était incroyable. Donc en plus ça commençait très tôt, parce que là je vous parle pas du bar de la gare à 3h du mat, le 24-24, non, là je vous parle d'un bar qui était moitié bar, moitié bureau de tabac, qui était à côté d'un cinoche en plein centre-ville de Toulouse, d'accord ? Et il était, je sais pas, la séance de ciné, elle commençait à 8h30, bon, et tu finissais à 10h. Ouais, tu finissais à 10h, parce qu'à l'époque, les films étaient plus courts quand même, t'avais des films de 2h, mais les films pour les gosses, les dessins animés, tout ça, moi, dans mes souvenirs, c'était 1h30, quoi, Aladdin, les trucs comme ça, The Mask, Jurassic Park, je crois pas que t'avais 2h de film, je crois pas. Enfin bref, et donc du coup tu mais peut-être que je me trompe, je ne sais pas, je saurais pas dire. Et du coup c'est vrai que tu sortais de ta séance ciné, donc tu avais vu Aladdin, ce rêve bleu, gna 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 gna, on n'est pas à Toulouse, dans les dessins animés, les Arabes sont gentils, font des voyages au milieu des nuages. Chez Walt Disney, les Arabes sont rigolos et bienveillants dans la réalité. C'est putain, je sais pas chanter, c'est l'enfer. J'essaie de faire la musique du rêve bleu. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Les Arabes sont gentils, ils vivent à Grabat. Et putain, tu sortais du cinoche, c'était pas exactement comme dans le film. Alors, ils t'en mettent quelques-uns dans Aladdin quand même. Attendez, je vais revenir sur les bars. Mais avant ça, dans Aladdin, ils t'en mettent quelques-uns. Ils te mettent des gueules, ils te mettent un clan d'eau au début. Je crois qu'au début d'Aladdin, c'est le Raptor qui en a parlé récemment avec Abysmal. Au début... Je crois qu'il y a une espèce de clodo, il est en prison. Je crois qu'Aladin est en prison avec un espèce de clochard édenté, mais c'est le blédard, quoi. C'est vraiment le blédard. Putain, c'est horrible. Même Walt Disney, ils ont fait un dessin animé pour les gosses, ils ont quand même dit du racisme. Oh putain. Oui, c'est ça, c'est qu'Aladin se fait mettre en prison. Oui, c'est ça. Il y a un moment où il se fait mettre en prison et il y a une espèce de vieux fou qui lui donne, édenté, qui lui donne la lampe. Bon, ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu. Mais ils ont mis un clan d'eau, quoi. Mais après, putain, Agrabah, ouais, t'as envie d'y vivre. Déjà, il y a Razoul, là, le flic arabe qui coupe des mains. Il veut couper la main d'Aladin parce qu'il a volé du pain. Alors, faut savoir un truc, quand j'étais gosse, j'étais déjà de droite. Parce que le mec qui n'a pas de foyer, qui vit sur une terrasse avec un tapis, avec un singe en volant les gens en chantant, avec sa grosse coiffure là. En plus, il avait fait une gueule plus de Pakistanais que d'Arabe. J'avais vraiment envie de le tondre et qu'il se fasse décapiter après. Mais je me rappelle que j'avais soif d'État islamique avant que ça existe, en regardant Aladdin. C'est fou, hein. J'étais pas pour Aladdin, moi. Je le trouvais stressant. Il était en pyjama. Il traînait avec un singe. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? C'est quoi? Où est-ce qu'on est, en fait? Putain. Je suis à deux doigts de faire une blague raciste. Je ne vais pas la faire. Et donc, du coup, ouais, tu voyais Aladdin, t'étais en suspension, un peu Jafar, le génie, ouais, le génie vit chez les Arabes et tout. Et puis après, tu sortais dehors. Ali, oui, c'est bien lui, gna 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 gna. La reine Riba, Catella, la Faourette. Il n'y a pas d'oasis ni de génie dans la Graba toulousain. Putain. Oh là là, donc tu sortais du Cinoche, t'avais vu un truc là, t'es les Américains qui t'avaient fait voyager, parce que bon, les Américains, les Arabes, ils les bombardent, ils les ont pas en bas de chez eux. Nous, c'est l'inverse, nous, on les bombarde pas, mais on les a en bas de chez nous. Et donc, tu sortais de là. T'avais voyagé dans une espèce d'Orient imaginé par des protestants américains. Et là, tout d'un coup, t'allais au café de la gare. Il y avait des clandos qui étaient en train de frapper des femmes. Mais est-ce que vous les connaissez, ceux-là? Est-ce que vous les connaissez? Parce qu'en fait, faut savoir un truc. À Toulouse, je sais pas pour le reste de la France. En fait, t'as eu une première génération de Maghrébins, c'était des gens vraiment très, 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 très discrets, gentils, travailleurs. Alors, ils se sont même pas intégrés parce qu'en fait, ils avaient été amenés en France pour bosser. Donc, zéro, si vous voulez, très, très peu d'éducation, je parle scolaire, hein, c'était des gens qui étaient peu allés à l'école. Et donc, ces gens-là, ils parlaient très, très mal français, mais ils se comportaient très, très bien. Enfin, ils ont, il faut le dire, hein. Ils ont quand même été exploités jusqu'au dernier degré chez Peugeot ou chez Renault sur les fils d'assemblage. Et après, eux, ils ont eu des gosses qui étaient giga, giga intégrés. Et tu as eu la troisième génération. Mais de temps en temps, tu avais des vagues comme ça. Tu avais des vagues avec des arrivées de clandos à Toulouse, qui arrivaient de Mostaganem en général. De la ville de Mostaganem en Algérie. Donc, t'avais des vagues. Donc, tout d'un coup, tu voyais un Pokémon rare apparaître à Toulouse Wilson. Alors, en fait, on sortait du ciné. On allait boire un café avec mon daron. Enfin, moi, je buvais pas un café. Lui, buvait un café. Moi, je buvais un Fanta ou j'en sais rien. Ou un Orangina, plutôt, à l'époque. Et tout d'un coup, au loin, t'avais... Alors, je sais pas si vous connaissez ce profil de Blendard. C'est les espèces de mecs... Leur signe astrologique arabe, c'est le lézard, en fait, tu vois. Ils sont tout secs, ils ont les lèvres un peu violettes, ils ont des poches sous les yeux. Ils ont une démarche un peu... Ça ressemble au Wanga dans Man in Black. Vous voyez lesquels c'est, là ? Hé, donnez la Wanga ! T'as envie qu'il y ait les Man in Black qui les boulent et qui les récupèrent, quoi, putain. Est-ce que vous vous rappelez de ça ? Ils avaient des voix comme ça, en fait. Mais ils ont des démarches un peu de Wanga. Salut les Wanga. Et les mecs traînaient. Ils traînaient à Wilson. Et alors, évidemment, bon, il y avait des gonzesses. Alors, c'était des profils... Déjà, il faut savoir un truc, c'est que les clandos sont des énormes alcooliques. Parce que je crois que quand ils arrivent en Europe et qu'ils comprennent que t'as le droit de te la mettre au dernier degré... Mais là, les mecs te prennent des murges, tu comprends pourquoi leur prophète leur interdit de picoler. Parce que le résultat, il est horrible. Donc en fait, t'as des maghrébines de 50 balais desséchées par la rue, tu sais, parce qu'elles traînent dans des trucs chelous et tout, qui se font fracasser par des clandos. Mais vraiment, ils leur mettent des trucs qu'on se met à la WWE, en fait. Ils leur mettent des claques carpées avec enroulé du dos, quoi, si tu veux. Donc les gonzesses, en plus, il y avait le côté accent toulousain. Oui, parce que le clando, en fonction de là où il arrive, il prend une direction. À Toulouse, il y avait le côté, la gauche t'autorise à être un clando et met par-dessus ce truc de clando la cassosserie toulousaine, c'est-à-dire la picole et la violence, en fait, qui était déjà présente chez les clandos. Donc, si tu veux, c'est tutti frutti, ça explose, en fait. Là, le mec, c'est... Et donc, t'avais des clans d'eau femmes. Et il y avait des embrouilles, les traînées par les cheveux. Mais c'était des scènes du Jurassique, en fait. C'était des scènes, si tu veux. On était... Je sais pas où on était dans Mad Max, en fait. Et ça parlait en arabe très, très fort et tout, putain. Oui, des salopes. Il y avait des trucs comme ça, en fait. Ah, putain. Le Mordor, quoi. On pourrait lui manger une jambe, il en a pas besoin. Putain, mais... Donc t'étais assis avec ton daron, tu buvais une Orangina. Derrière toi, il y avait un mur de films de boules et de revues de cul parce que t'étais dans une espèce de bureau de tabac, tu sais, entre Le Figaro et Mademoiselle. Et au loin, t'avais des... Oui, espèce de salope. Et puis, bam, t'avais une claque de forgeron, con. Et t'avais les blancs, là, de gauche... Les lâches. Et c'est pas la peine de lui mettre une gifle comme ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De la lune de la dynamo. Putain. Là, t'as envie qu'il y ait Aragorn qui déboule, quoi. Oh, putain, quoi. Et je regardais ça et je me disais, j'étais petit, je me disais, mais attends, mais il faut que Toulouse brûle, en fait. Il faut que vraiment on nettoie les rues. Et je sentais, déjà petit, je sentais que c'était pas un truc normal, ça. C'était pas un truc normal. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ces animaux? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est pourquoi ils sont dehors, t'sais? Mais enfin, vous voyez bien qu'ils sont pauvres! Enfermez-les! L'horreur, quand. Non, mais c'était pas ça, parce que t'as des pauvres qui sont tout à fait discrets, tout à fait dignes. Là, quand je dis ça, je rigole. Mais tu te disais, il y a un truc qui dysfonctionne en France. Il y a un truc qui va pas. T'analysais dans ta petite tête de gamin des années 90. Il y avait une pute avec des valises sous les yeux qui proposait à des mecs en imperméable de 50 balais avec la calvasse de les sucer. Parce que t'avais ça, hein. Dans les années 90, dans les bars. T'avais des gonzesses qui arrivaient. Hé, hey, Riton, tu veux pas que je te fasse une pipe? Alors, autant te branler avec un cendrier, en fait. Je pense vraiment que là, si t'acceptes, quand tu pourras dire que t'as mis ta teub dans un paquet de Malbec, quand. Non, mais c'était ça, hein. Des prostituées, mais décharnées, des semelles, quoi. Elles étaient éclatées. Mais parce qu'elles avaient connu des trucs à la dure. Déjà, les prostituées, la majorité, ont été violées, souvent. C'est très, très rare, les prostituées qui ont pas subi des agressions sexuelles dans l'enfance. C'est Body Bro qui m'expliquait ça l'autre jour. Et c'est vrai, c'est souvent, les prostituées sont des femmes qui ont été dégradées à un moment et qui ne s'en remettent jamais et qui ne surmonte jamais ce trauma et qui se retrouve dans des vies comme ça. Et tu les voyais, elles faisaient peine à voir, quoi. Elles faisaient peine à voir parce que dans le sac à main, elles avaient un paquet de chewing-gum pour la laine de bite. Hein, avec Non, elles avaient, ça c'est encore plus hardcore, dans les années 90, je me rappelle avoir vu une pute faire un bain de bouche avec du... Pas du Synthol. Enfin, l'ancêtre de la Listerine, quoi. Ça, c'était hardcore, hein. C'est-à-dire que la meuf venait de sortir d'une bagnole dégueulasse avec la buée. Elle avait sucé un espèce de Bernard, là. Les Bernards calvitie, roux, obèse, 1m52, imperméable belge. Waouh. Sexy. Waouh, madame la prostituée, mais c'est Noël aujourd'hui. Putain. Mais c'est sordide. Putain, quelle horreur. Et moi, j'étais en train de boire un Orangina devant toutes ces horreurs, putain. Place Wilson, quoi. Parce qu'en fait, les putes, elles étaient juste à côté. Elles étaient dans le quartier. Elles étaient dans le quartier de la gare, en fait. À l'époque, la rue... Putain, comment elle s'appelait? Ah, quand on était gosse, on se taillait là-dessus, là, justement. Ouais, ta mère, elle bosse. Ah, la rue Bayard. À Toulouse, c'était la rue Bayard, la rue qui conduisait à la gare. Donc, quand t'étais à Wilson, t'étais pas loin, en fait. Surtout que ça débordait un petit peu sur l'avenue qui allait jusqu'à la bibliothèque François Mitterrand. Bon, bref, ceux qui sont pas de Toulousains, peu importe, ceux qui sont de Toulouse, ils voient ce que je veux dire. Ils voient le quartier dont je parle, la rue Bayard, voilà. Donc, si tu veux, je buvais mon Orangina, mon daron était en train de lire l'Humanité. Et oui, c'était un gros coco. Et il était en train de boire un café, de lire l'Humanité. Et moi, je regardais. Et je vois une meuf abominable. Une gueule de momie. Quand putain, mais t'as envie de foutre de l'eau dessus pour voir si elle va regonfler. T'as l'impression qu'elle est lyophilisée, la gonzesse. Tu sais, comme des fois, quand tu trouves... t'as fermé un placard et t'as enfermé un animal dedans. Tu as une souris ou un lézard ou une araignée qui est desséchée. Et tu rouvres et tu fais wow, « Waouh, ça a vachement séché ». Tu sais, tu sens qu'il y a vraiment plus de molécules d'eau dedans, tu vois. Et ben la pute qui était sortie de la bagnole, vraiment, je sentais que là, il y avait le stress, la rue, les claques dans la gueule, le nombre de fibres qu'elle avait sucé et tout. Tu sentais que ça allait pas. Et puis, c'était des femmes qui se droguaient parce que pour accepter, enfin, elle ne l'accepte pas d'ailleurs, mais pour vivre cette vie-là, il faut pas être consciente, quoi. Donc, la drogue permet d'avoir une forme d'inconscience. C'est horrible, horrible, sordide. Et donc, elle était sortie d'une espèce de bagnole à l'ancienne, une 4L rouge tomate, mais éclatée par la pluie, avec les joints qui font un bruit quand tu les ouvres. Je sais que ceux qui ont connu les vieilles bagnoles, ils connaissent ça. Tu sais, il y avait l'espèce des joints qui se décollent. Putain, c'était dégueulasse. Et elle était sortie, et j'avais entrevu le mec qu'elle venait de sucer, et c'était un espèce de... C'était un leprechaun. C'était un nain roux, avec un énorme bide, et un imperméable beige. Ouais. Combien ? Putain. Combien pour la petite gâterie, la turlute ? Putain, l'horreur ! Elle s'emballe, minée. Oh, l'horreur. Non, ça, c'est à Paris encore. Il y a encore le côté un peu la pute des films de dire « Elle s'emballe, mon minet !» Non, non, là, c'est Toulouse. Là, il y a l'accent toulousain. C'est la pute avec l'accent toulousain, là. Eh ben, je te suce pour 100 euros. Putain, pour 100 francs. Putain, oh, l'horreur. Eh, je te suce pour 100 francs. Non, en plus, t'es pas 100 francs. Pas 100 francs, c'est 15 euros. Ça devait être moins encore, putain. Ça devait être 50 francs. T'sais. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, pour 7 euros. Putain, l'horreur. Et elle était sortie. Et elle avait sorti de son petit sac à main. Elle avait sorti un espèce de flacon. Elle s'en était foutue dans la gargante. Et il y avait eu le... Elle avait fait un bain de bouche. Pour spermicider... bon bref, on va arrêter là. Enfin voilà, vous avez compris ce que je veux dire. C'est dégueulasse. Et je voyais ça et je me disais, mon Dieu, mais il nous faut un dictateur fasciste à la tête de la France. Faut qu'il y ait des brigades qui passent, qui éclatent les clans d'eau, qui amènent les putes dans des maisons de réacclimatation à la vie normale. T'sais, ils leur donnent de la viande et des pâtes et ils les empêchent de sucer. T'sais. Je sais pas quoi faire. J'avais envie de les aider, mais qu'ils aient mal. Je sais pas comment vous expliquer. J'avais envie qu'on les aide, hein, parce que j'avais déjà un petit cœur chrétien. J'avais envie qu'on vienne en aide à ces gens-là, parce que je sentais bien qu'ils étaient les symptômes d'une société qui allait mal. Mais j'avais envie qu'avant qu'on leur fasse du bien, des gens en uniforme leur cassent quelque chose. La mâchoire, des dents, le nez. Alors les putes, non, mais des balayages. Je voulais que les putes prennent des balayages. Je voulais qu'il y ait des mecs qui arrivent en trier et qui les balayent. Tu vas arrêter de sucer ! Non, mais vraiment. Un truc, la brigade anti-pute, quoi. Je sais pas comment le dire. T'as les mecs, ils arrivent, stop, là, allez hop. Ils sortent les meufs de derrière les fourrés. Ils arrêtent les clients. Ils promènent les clients avec des pancartes autour du cou. Moi, j'avais ce côté-là quand j'étais gosse. J'avais ce petit côté inquisiteur espagnol de 8 ans. Putain. Oh, mon Dieu, le petit fasciste. T'sais. J'acceptais pas ça. Et je disais, mais papa, ils font quoi ces gens-là? Et mon père, il me disait, ah ben ça, si tu veux, c'est la misère du monde. Mon père, lui, c'était un communiste. Donc en fait, il voyait ça. Il se disait, on va voter... comment il s'appelait là, l'autre, là? Ah, je sais plus comment il s'appelait, quoi. Le coco de l'époque, là. C'était pas Georges Marchais, c'est celui d'après. Robert Hue. On va voter Robert Hue et ça va aller, tu vois. Mais je me disais, attends, Robert Hue, il est en surpoids, il a une gueule de nain de jardin, il est dégueulasse, en fait. Non, on va pas voter Robert Hue, là. En fait, il faut des gens en uniforme, avec des rangers très serrés, des rangers très serrés, des genouillères, des trucs d'éther, en fait. Que les mecs, ils arrivent, ils tapent des freins, là, hop, brigade de répression des trucs angoissants pour les enfants. Oui, voilà, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire, en fait, ils arrêtent tous les gens qui sont angoissants pour les enfants. Voilà. Ça, ça serait génial, comme à Walt Disney. J'ai un pote qui m'a expliqué, ben, Body Bro, qui est parti avec sa fille à Walt Disney. Il m'a dit, à Walt Disney, en fait, dès qu'il y a un adulte qui est un peu saoul, qui commence à faire de la merde, paf, il y a la sécurité qui sort de nulle part pour empêcher tout scandale de venir heurter le plaisir des enfants. Et je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve ça un monde où les enfants n'ont plus d'angoisse. Bon, le problème, c'est que ça va faire des merdes après, parce qu'en fait, s'ils ont peur de rien, ils ne deviennent pas de droite, ils deviennent de gauche. C'est ce qui s'est passé avec les boomers. C'est qu'en fait, comme les mecs solides qui avaient fait 39-45 leur ont fabriqué une société ultra sécurisée et tout, mais en fait, c'est devenu des sales communistes de merde, en fait. C'est devenu des sales... Enfin, pas des communistes, parce qu'il y avait y compris des communistes qui ont lutté pendant 39-45, mais c'est devenu des sales bourgeois de merde de gauche, en fait. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que finalement, ce que je dis, le côté voir du sale, mais c'est pour ça qu'en fait, l'histoire de l'humanité, elle est cyclique. Parce qu'en fait, quand tu vois du sale, tu te dis, enculé, il faut de l'ordre. Tu sais, mais t'en as besoin, tu vois. Alors que quand tout est bien, tu te rends pas compte de la cassosserie, à quel point ça peut aller loin, à quel point c'est... Parce que j'imagine que quelqu'un qui a grandi dans un espace complètement safe, comme diraient les fils de pute, ben en fait, à la fin, il devient woke. Et oui. Parce qu'en fait, comme il s'offusque de rien, enfin, c'est pas ça. Comme il a aucun motif d'être malheureux, ben en fait, il va s'offusquer pour de la merde, il va aller chercher des trucs complètement alambiqués. Alors qu'effectivement, dans les années 80-90, quand tu voyais un clando démonter une gonzesse, quand tu voyais Robert ouvrir la porte de sa 4L pour que la pute elle sorte, bon, c'est même pas lui qui l'ouvrait parce que la galanterie repassera, si tu veux, quand tu vas te faire pépon à 11h du soir un samedi, si tu veux. Mais il y avait le côté, si tu veux, putain, t'avais envie de mettre de l'ordre. Tu pouvais devenir comme petit fasciste, en fait. Et je me rappelle, donc il n'y avait pas que ça, hein. Donc il y avait les putes, hein. il y avait les gens normaux, parce que t'avais les gens normaux qui sortaient le samedi soir, évidemment, hein, c'était la majorité. Mais alors, c'était encore l'époque des skinheads, t'avais encore des skinheads et t'avais encore des punks, parce qu'en fait, les skinheads tabassaient les punks. Les punks, c'était un autre délire que les skinheads, c'était encore autre chose. Vestimentairement parlant, c'était différent. Il y avait des trucs qui se rejoignaient, mais c'était différent. Les punks à chien avaient des treillis ou des jeans très moulants. Ils avaient des espèces de... Ils copiaient un peu le style des Anglais. Et les skinheads qui avaient donc des bombers, des jeans très serrés, très clairs, avec des espèces de paraboots à double rabat, avec les lacets blancs. Bon, vous voyez le style, hein. Donc des fois, voilà, mon père, il buvait un café, Place Wilson, tu sais, il était 11h du soir, et t'avais 5 skinheads qui étaient en train d'éclater des chaises sur la gueule des punks à chien, en fait. Voilà, avec les chiens qui aboyaient. C'était très, très, très particulier. Voilà. Et quand je voyais ça, étant petit, je me suis dit, quand je serai grand, je mettrai tous ces gens en prison et puis après, je les ferai brûler ou je les pendrai. Voilà. Je me disais ça. Bon, et puis finalement, je n'ai pas pu le faire. Je suis désolé, je peux m'excuser. Je suis pas arrivé à pacifier la société. Donc, tout ça pour vous dire que c'est vrai qu'on a vraiment, par rapport à beaucoup de choses, on a vraiment changé d'époque. Et aujourd'hui, tout est un peu plus lissé. Alors, la société, paradoxalement, est devenue plus violente. Parce qu'à l'époque, la violence était dirigée des cassos vers les cassos. Alors qu'aujourd'hui, comme ça a toujours été dans l'histoire, quoi, plus ou moins. Alors qu'aujourd'hui, la violence des cassos est dirigée presque exclusivement sur le contribuable, si tu veux. Sur le mec qui a rien demandé, sur le mec sans histoire. Donc c'est très 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 particulier. C'était très très particulier. Là aujourd'hui, t'as des racailles qui vont agresser le père de famille. À l'époque, le père de famille se faisait pas agresser comme ça, quoi. Moi, mon père, il garait la bagnole, on se faisait jamais emmerder, quoi. T'avais toujours un mec un peu chelou pour demander une clope. Mais c'est vrai que c'était très différent. Et toute cette faune-là a complètement disparu. Mais ils avaient quand même leur côté en couleur, si tu veux. Voilà, les putes qui étaient accoudées au comptoir, elles avaient des voix, des trucs, bon, putain, t'en as des trucs hardcore, t'avais 8 ans, puis il y avait des... « Hey, j'ai plus de sous, là, tu me sers une bière ?»« si tu veux, je te ferai une gâterie, mon minet !» Voilà, bon, mais c'était version toulousaine, quoi. C'était un peu ça, mais version toulousaine. « Hey, t'as pas un café, Michel ? Et si tu veux, je te suce, oh, putain !» Oh, putain. Rangez les enfants. Alors, c'était merveilleux, parce que t'allais au cinéma, les strapontins, ils étaient rabattables, ils grinçaient. Ils étaient en bois. Il y avait l'arrière qui était en bois, quoi, à l'époque. T'avais pas encore le bakélite et tout, là. Enfin, maintenant, d'ailleurs, je sais plus, c'est Metal et Bacali, je crois. Mais c'était un autre Toulouse, c'était une autre époque. C'était vraiment une autre époque. Et il y avait quand même, organiquement, on sentait que la société était plus, elle était plus haute en couleur. Aujourd'hui, le sordide n'a pas disparu, mais en fait, la société s'est organisée de telle manière à ce qu'il y ait quelque part deux mondes, en fait. Le monde du consumérisme et le monde de la cassosserie. Alors, ils se croisent, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des agressions et tout ça, mais c'est sûr. Mais à l'époque, tout ça était un tout. Tout ça était un tout et il y avait quand même une société un peu plus... La France a toujours été une société de caste. Ça a toujours été une société... Avec des groupes assez hermétiques les uns aux autres. Mais mine de rien, tu avais encore des gens dehors de tous les horizons. Aujourd'hui, quand tu vas de nuit à Toulouse, si tu veux, tu crois soit des jeunes qui vont en boîte, soit des racailles, quoi. Et des cassos, voilà. Tu n'as plus le père de famille qui va boire un coup, c'est fini. Parce que tout est devenu hyper cher, parce que c'est impossible de se garer, parce qu'aujourd'hui, pour faire un cinoche, c'est 12 euros, quoi. Enfin, voilà. Moi, je me rappelle à l'époque, la place de ciné, c'était 15. Alors, ça dépendait pour les jeunes, c'était 15 francs, c'était 30 francs pour les adultes. Bon, 30 francs, mais c'était ridicule, quoi. C'était dérisoire. C'était dérisoire. C'était 15 francs, c'est, ça doit être 2 euros et demi, quoi. Voilà, 2 euros et demi, enfin, c'est... Pour 2,30€, t'allais voir un film. Et donc 4,30€, 4,60€ si t'étais un adulte. Et encore ça, c'était à la fin des années 90, 30 francs. Donc c'était vraiment une autre société. Donc tu pouvais sortir avec ton père le samedi, tu voyais les putes. Il y avait un côté, tu voyais les cassos, tu voyais les gens normaux. Enfin, tu voyais la société, quoi. Il y avait un côté encore société très organique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le dehors n'est plus qu'un finalement un espace de transit. Les gens n'habitent plus la rue. Il y a plus cette rue de quartier. Tout est devenu monocellulaire pratiquement. Voilà. Les gens commandent des Uber Eats parce qu'aujourd'hui, je dis ça, vous allez me dire oui, mais aujourd'hui les gens vont au resto. Tout ça. Oui, c'est vrai. Mais à l'époque, t'avais des institutions. T'avais des restos qui étaient là depuis les années 60. C'était pas le turnover comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les adresses, elles restaient. Tu avais des habitués, tu avais une vie de quartier, tu avais des gens qui appartenaient à des quartiers depuis des générations. Aujourd'hui, comme tout le monde doit être meuble, comme tout le monde doit être standardisé, tu as perdu ce côté. Alors, je dis pas que j'irai pas jusqu'à dire que j'avais du plaisir à voir ces gens-là, c'est pas ça. Mais je mesure que leur existence, je parle pas que des putes et des lascars et des clandos. Je parle de tout ce qu'on croisait. Je parle de tous les gens qu'on croisait, y compris au bar et tout ça, les gens de la génération de mon père et tout. Il y avait quand même des profils qui étaient vivants. Il y avait encore quelque chose de vivant. La société, elle est très mal, hein, je vous dis pas le contraire. Mais il y avait quelque chose d'encore très vivant. Les gens n'étaient pas hyper connectés. Donc il y avait encore beaucoup de choses qui se passaient dans le réel. Les gens discutaient, il n'y avait pas le portable, quoi. Donc au bout d'un moment, quand t'étais assis au bar, rapidement, tu discutais avec les gens autour, tu t'amenais un truc à lire, donc les gens lisaient le journal, les gens discutaient avec des gens qui venaient de rencontrer. Enfin, tu avais encore des gens vivants, voilà, c'est ça que j'arrive pas à dire depuis tout à l'heure, mais on est complètement là-dedans. Tu avais encore des gens vivants. Tu avais encore des gens qui avaient du relief, qui étaient le fruit de quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, voilà, je vous donne un exemple, tu rentrais dans un bar, voilà, il y avait un mec qui avait la tête éclatée, donc en fait, son métier, ça avait été je sais pas quoi, tu vois, tu croisais des mecs, bon, je serais caricatural si je vous disais que tu croisais un boxeur dans tous les, c'est pas ça. Mais il y avait encore des mecs qui avaient fait des métiers, des vrais trucs, tu vois. T'avais encore des personnages qui avaient connu une France très ouvrière, donc en fait, ils avaient un parler, un phrasé, une espèce d'emphase parce qu'ils avaient eu des vies difficiles, donc ça avait développé les personnalités. T'avais des types qui étaient en couleur. T'avais des mecs qui... Moi, j'étais gosse, j'allais dans ces bars-là, j'entendais des mecs prendre la parole, mais je me régalais, c'était le spectacle, quoi. Et c'était des fois plus puissant que le film que t'allais... C'était pas tellement que c'était plus puissant que le film que t'allais voir, parce que quand t'allais voir quand t'allais voir Last Action Hero, t'avais vu un truc puissant. Mais quand t'avais vu Last Action Hero avec Schwarzenegger qui balançait des taloches à des gonzes pendant 1h30, et que tu sortais, et qu'au comptoir, t'avais un vieux rugbyman avec le nez pété. Hey « Hé Bernard, ramène-moi les cacahuètes, quoi !»« Et amène-moi les cacahuètes là, quoi, Julien, dépêche-toi, quoi, putain. Et je vais tomber par terre d'inanition, quoi, si tu veux pas les cacahuètes. C'était des trucs comme ça, c'était nul. Mais si tu veux, à un moment, le mec, il avait parlé fort, il avait produit de la testo. Il avait pris de l'amplitude. Les choses prenaient de l'amplitude, les mecs, ils remplissaient les pièces. Les gens remplissaient les pièces. La pute est rentrée, elle puait le foutre. Et les produits pour se laver la gargante, et la vieille clope, parce qu'elle fumait des... Elle fumait des menthols, ces vieilles grosses salopes. Parce qu'elle voulait fumer, mais garder une bonne haleine. Alors, ça fumait des clopes menthols, tu vois. Putain, ça rentrait là-dedans, ça commandait des trucs pas possibles. Ouais, mais moi, un pernaud, je sais pas quoi. Mais moi, c'était des pernauds. Voilà, les mecs buvaient des pernauds. Ça buvait des picombières. Voilà, ça buvait des picombières. Ça buvait des coups de, que tu buvais à Philippeville dans les années 50 par la grosse guerre d'Algérie, en fait. Voilà. Et ça, ça régalait, quoi. Ça régalait. Et c'est vrai que, putain, les barman avaient des gueules de barman, les serveurs étaient des serveurs professionnels. T'allais dans un gastos, t'allais dans un restaurant de Toulouse. Je prends l'accent parisien parce que ça me fait penser au monde d'Audiard. Mais à Toulouse, c'était des mecs qui avaient l'accent du sud-ouest. Ça roulait l'air. T'avais encore des mecs qui roulaient l'air. Je vous en ai parlé en podcast, je vais pas refaire un truc là-dessus, mais... Putain, les gens étaient encore des gens. C'était pas du standard de merde qui copiait des façons de faire qu'ils avaient vues sur Instagram. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui se passe. La pétasse moyenne et le trou du cul moyen, ils vont sur Instagram, ils voient une influenceuse faire tel truc, ils essaient de reproduire dans leur ville de merde avec leur truc complètement factice. C'est nul, ça n'a plus de vie. Je préfère les bars miteux de Wilson, de Toulouse des années 90, que les trucs modernes, soi-disant lounge, je sais pas quoi, où tu croises que des gens qui sont des copies les uns des autres. Il y a plus aucune putain. Aujourd'hui, les mecs, c'est des feuilles canson, quoi. Voilà, tu peux les décalquer en fait, les gonzes. Tu les décalques et tu les multiplies. Voilà. À l'époque, les mecs étaient uniques. T'avais des personnages uniques. T'avais des trucs, puis ils avaient des histoires incroyables, quoi. Le mec là, le Libanais qui tenait le kebab de la rue des Lois, le premier kebab de la rue des Lois, il est là depuis 40 ans, lui, si ce n'est 50. Putain, il avait un problème aux jambes. Bon, c'était une masse, le mec, hein, c'était un Libanais avec des épaules de bâtard, il était très, 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 très costaud. Très, très, très costaud. Et à Fès, je sais plus, c'était deux frères. Il y en a un qui avait un kebab rue du Thor, et l'autre, il avait un kebab rue des Lois. Et c'était une famille de Libanais, mais énorme, avec des épaules énormes, les mecs. Avec des épaules énormes. Surtout à Fès, je crois qu'il s'appelait à Fès. Et c'était les kebabs avant qu'il y ait les kebabs French tacos de merde de racaille. Speedburger, s'il te plaît. Non, ça n'existait pas. C'est de la bonne viande, c'était vraiment, tu bouffais un vrai kebab à l'ancienne. Fait par un Libanais, quoi. Putain, lui, un jour, il avait un problème à la hanche ou aux jambes, il pouvait pas se marcher. Et il s'était embrouillé avec les premières Kaira, la première génération de Kaira, là, à la fin des années 80. Et en fait, il était en train de s'invectiver avec le mec et il bougeait pas de sa chaise. Et à un moment, le mec s'était rapproché suffisamment de lui. C'est lui qui me l'a raconté, j'ai pas assisté à cette scène. Mais ça m'a été raconté par plusieurs personnes, donc j'imagine que c'est vrai. Il avait attrapé le mec parce qu'en fait, le type avait un genou flingué, le Libanais. Donc il pouvait pas poursuivre la racaille pour l'éclater. Mais l'autre avait fait l'erreur de s'approcher et en fait il l'avait attrapé et il avait une telle force dans les mains parce qu'il avait des paluches énormes, ce mec. Il avait serré son t-shirt, je pense qu'il est toujours en vie, j'espère qu'il est toujours en vie. Il avait serré en fait le manteau du mec, la doudoune du fils de pute racaillesque avec qui il s'était embrouillé. Il avait traversé, parce qu'il était en face de son kebab assis sur une table, il avait traversé la toute petite rue, il était rentré dans son kebab, il avait pris une casserole, une espèce de récipient qu'il avait plongé dans de l'huile bouillante, il avait fracassé avec de l'huile bouillante en tapant le mec avec de l'huile bouillante, une casserole avec de l'huile bouillante dedans, il avait fracassé la gueule d'une racaille. Et ça m'a été raconté par deux personnes qui ont assisté à ça. Enfin, par lui et par deux personnes qui m'ont confirmé que ça s'était passé. Donc, génial, quoi. Génial. À l'époque, les patrons de kebab agressaient les racailles. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte. Puis surtout, c'était pas des clandos de merde, French tacos, mes couilles. C'était des Libanais des années 60. Donc des gonzes qui avaient des chevalières et des Mercedes, en fait. C'était pas des Arabes avec des houppettes. Des Arabes modernes. C'était les Arabes à l'ancienne, en fait. C'était les Arabes à l'ancienne. Avec des épaules de gorille velues, là. Velues sur les doigts. Ton kebab, tu le veux à quoi? De toute façon, il y a les poils, ils sont inclus dedans, quoi que tu fasses. Quelle que soit la sauce que tu choisissais, c'était quand même au poil de Libanais. Goût poil de Libanais, quoi. Mais ça régalait. Ça régalait, putain. Il avait accroché la Kaira par le col, il avait mis un coup de casserole avec de l'huile bouillante dans la fif. Est-ce que tu crois que ça filait droit, quand? Et ça régalait. T'avais des gros skills, là, des paras de Franck Cazal qui patrouillaient pour éclater des punks, quand. Mais ça régalait. Alors, c'était pas génial, c'était pas la société de rêve, c'était pas la tranquillité, mais il y avait du relief. Aujourd'hui, les gens sont désespérément vidés de leur substance. En fait, ils ont plus rien à raconter, ils ont plus de parcours. Tu croises que des fils de pute qui ont un oral de management. Voilà, c'est ça le mec que tu croises moyen aujourd'hui. Il a un oral de management, fils de pute. Il a acheté un costume thermocollé là à Fabio Lucci ou je sais pas quoi là. Maintenant c'est quoi? C'est Célio, c'est Jules. Voilà. Il a allé chez Jules, fils de pute. Il a acheté un costume de fils de pute gris anthracite de merde avec une cravate en plastoc et une chemise en plastoc si tu veux. Il a des pompes là, des mocassins. T'as l'impression que le mec il conduit une calèche. Oh Richelieu quoi. T'as oublié ta perruque. Et les mecs tu les croises avec des espèces de petits dossiers là. Puis maintenant les costumes c'est dégueulasse. C'est des costumes qui moulent leur petit corps frêle de mecs qui mangent mal et qui ont plus de masse parce que ça travaille plus, parce qu'il y a plus de cabanes dans la forêt, parce que ça met putain. Mais nous on n'arrêtait pas le rugby, les cabanes, les marrons dans la gueule, le oui il y avait de la télé, oui il y avait de la console, mais putain il y avait du vélo, il y avait du rugby, mais on faisait du rugby. On se faisait des passes, on se rentrait dedans, on faisait des touchés, et quand on avait marre de se toucher on se rentrait dans la gueule. Donc oui, ça te fabrique un corps. Aujourd'hui les corps ils racontent quoi? Les corps dans la rue, ils racontent quoi? Tout le monde baisse le regard, tout le monde est bizarre, tout le monde est prostré, tout le monde a les épaules qui tombent, tout le monde est habillé pareil. Il n'y a plus aucune pute qui vient au comptoir et qui te fait une phrase de film à la Audiard. C'est fini les vieux rugbyman avec le nez pété qui parle occitan, c'est nul. La modernité est nulle à chier, quoi. T'as que des mecs qui sortent de nulle part, ils n'ont plus d'accent. Les gens n'ont plus d'accent à Toulouse. Ça, j'en avais parlé, je crois, mais j'en reparle parce que c'est un truc, j'en reviens pas. Quand j'étais gosse, t'étais qu'avec des mecs qui avaient fait 30 ans de première ligne. Ils avaient des têtes, c'était un champ de patates, la tête. Et ils prenaient la parole et c'était rocailleux, c'était garonnesque, en fait. C'était garonnesque. Voilà, il y avait du flux. Il y avait du flux, quoi. Il y avait du caillou dedans, tu vois. Comme dirait Nougaro, quoi. C'était des mecs... Oh putain, heureusement que j'avais le nez, parce que sinon je l'aurais pris en pleine gueule. Voilà, c'était des trucs comme ça, putain. Je vous l'ai raconté, ça, le... On mangeait pas trop de cacahuètes salées parce qu'on avait les lèvres qui piquent, je te le dis, quand. C'était que des trucs comme ça, putain. Les mecs faisaient des sandwichs de pâté, sardines et roquefort. Ils faisaient des sandwichs avec tous les trucs, avec des goûts les plus violents possibles, parce que les mecs avaient papilles grillées par le temps, par le rouge et par le ricard, et donc du coup, ça se faisait des sandwichs de sardines et de roquefort, quoi. Avec un filet de d'huile d'olive par-dessus, quoi. Mais moi, ça me manque, ça. Ça me manque. Quand t'avais encore des vrais gens qui n'étaient pas sortis d'un espèce de moule de la modernité dégueulasse. Aujourd'hui, ces fils de pute, ils conduisent tous des Kia Picanto d'enculés et des Renault Zoé de fils de pute. Déjà, rien que le passe de la bagnole, quand Zoé, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? À l'époque, t'avais des immigrés camerounais avec des Citroën XM qui venaient boire des coups au comptoir et ça parlait avec l'accent africain et ça disait des trucs homophobes. À la vue de tous! C'était Cyrano de Bergerac tous les soirs, quand. T'avais que des mecs géniaux, là. C'était le catch, en fait. C'était la WWE, tu vois. Et même le mec qui était dégueulasse dans son imper, là. Même celui qui se faisait sucer par la pute, mais il amenait un truc. Au moins, il amenait un truc. Il y avait quelque chose derrière. Tu l'avais, l'imaginaire du gros porc dégueulasse avec le gland qui fouette. Et puis la calvasse de roue, quoi. Avec le surpoids et les lunettes. Cul de bouteille, tu sais. Les lunettes, les culots de bouteille dégueulasses, quoi. Tu as la tête du pédophile en puissance qui s'est fait sucer par une semelle. Mais il me manque. Oui, j'ai pas honte de le dire. Il me manque, ces mecs-là. Il me manque, quand. Ça me manque. Je préfère ces mecs-là, même si j'avais envie de les trépaner quand j'étais gosse, que tous les fils de pute de la modernité inferno. Et ils savent plus rien, ils comprennent plus rien. Tu vas au bar, tu leur parles deux minutes d'un truc. Je suis allé dans un bar thématique box. Putain, le serveur, il était là en CDI, mes couilles. Ils sont devenus meubles. Avant, les gens étaient immeubles. Avant, ils étaient encastrés dans les choses, les gens. Ils étaient encastrés dans leur quartier, ils étaient encastrés dans des travaux, ils étaient encastrés dans des styles de vie, ils étaient encastrés dans... Les mecs, tu les bougeais pas, ils étaient monolithiques, t'avais que des menhirs dehors, quoi. T'étais en Bretagne partout, quoi. C'était Stone Age partout, quoi. T'avais que des pierres. Aujourd'hui, tout le monde est tout. Tu vois, je suis coach sur un Instagram. Tu vois, ta gueule. Dis-moi un vrai truc, là. Dis-moi que t'as été faire sucer par Germaine, là. Putain, la pauvre. Je me demande ce qu'elle est devenue, cette femme. Cette prostituée, là, je la voyais de temps en temps à Wilson quand je sortais du Cinoche avec mon père, là. Je l'apercevais de loin, hein. Putain, je sais pas comment elle a fini parce que des hivers, il y en a quelques-uns qui sont succédés depuis, hein. Putain, et oui, parce que les gonzesses, elles allaient au charbon, tu crois quoi? Parce que t'avais la buée de la bagnole, donc déjà, putain, les mecs, ils clopaient dans les bagnoles. Donc déjà, t'avais les bagnoles, cieux, pour descendre la vitre, c'était le moulinet. Mec. Donc déjà, le mec, il avait clopé. La pute, elle découvrait un mec, elle pensait qu'elle allait avoir affaire à Shawn Michaels dans ses belles années, et en fait, non. C'était pas l'entrée de Shawn Michaels. You know I'm, I think I'm cute. I know I'm sexy. Vous la connaissez celle-là? Putain, elle est magistrale. Attendez. Je vais vous la faire écouter parce qu'elle est incroyable. Elle est incroyable. Attendez. Ah, les années 80-90, c'était incroyable. Attendez, je le tape sur YouTube. Shawn Michaels theme song. Attendez, voyons si je le retrouve. You know I'm, I think I'm cute. You know I'm sexy. Donc là, la pute, elle arrive. Elle arrive. Elle est à un petit peu de pub sur un petit peu de pub sur YouTube. C'est pas chiant du tout ça. Donc la pute, elle déboule. Elle arrive. Elle est dans le froid. Elle a son manteau en fausse fourrure. Et là, il y a une bagnole qui s'arrête avec de la buée. Et là, la vitre descend. Et la surprise, ce n'est pas Shawn Michaels. C'est un énorme roux dégueulasse. Mais il y a quand même la musique de Shawn Michaels. Je vous la fais écouter. I think I'm cute. I know I'm sexy. Putain, l'horreur, con. Oh putain, con. Et la vitre se baisse et c'était un mec de la même équipe que Emil Louis, quoi. Putain, quelle horreur. Quelle horreur, putain. Eh ben, vous voyez, ça me manque parce que oui, c'était dégueulasse, c'était sordide. Hein. Mais il y avait quelque chose de vivant là-dedans. Et je crois que dans le vivant, il y a du propre, il y a du sale, il y a du beau, il y a du laid, mais il y a quelque chose. Aujourd'hui, on est quand même dans le grand vide. On est dans le grand rien, quoi. Tout le monde est presque un fils de pute. C'est triste. C'est vraiment devenu très triste. On est vraiment dans une époque qui est devenue très très triste. Très 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 triste. J'aimerais des fois revenir, vous savez, mais il y avait plein de choses, les jouets, les licences de jouets, il n'y avait pas quatre trucs. Alors aujourd'hui, il y a quatre trucs, quoi. C'est Marvel, DC Comics et Star Wars, quoi. Voilà, grosso modo, quoi. À l'époque, t'avais 28 trucs. Les Mighty Mouse, les Tortues Ninja, les Street Sharks. Tu avais les Skeleton Warriors. T'avais 20 000 trucs. T'avais les jouets Men in Black. T'avais les jouets de tous les films. T'avais les dinosaures Jurassic Park. T'avais un milliard de trucs, quoi. Aujourd'hui, là, je vais dans les magasins de jouets pour voir des fois. Putain, c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. Ah, putain. C'est triste, hein. Je vous dis... Des fois, je me demande, si vous voulez, si l'enfer, c'est pas... L'enfer, ce n'est pas forcément... Je crois que l'enfer, c'est quand tout a été aseptisé. C'est ça, l'enfer, en fait. C'est pas quand c'est le bordel. L'enfer, c'est quand tout est aseptisé. C'est quand il n'y a vraiment aucun microbe. Je crois que là, on est en enfer. Parce que s'il y a des microbes, c'est qu'il y a des cellules. C'est-à-dire qu'il y a de la vie. Quand tout est aseptisé, il n'y a pas de microbes, mais il n'y a pas de vie non plus. Et ça, c'est terrible. Et je crois vraiment, c'est le message que je vous donnais pour la fin de ce podcast, mais je crois vraiment que c'est important que chacun en œuvre à refabriquer des personnalités. À se refabriquer des personnalités déjà nous-mêmes, d'accord ? À diversifier nos horizons, à se rendre curieux, à s'intéresser à des trucs vers lesquels on ne vous amène pas naturellement, quoi. Parce que naturellement, on vous amène à des trucs de merde, quoi. Il y a des espèces de modes comme ça, donc un jour c'est le crossfit, un autre jour c'est le running, un autre jour c'est le yoga. Moi j'ai vécu l'époque dans les années 90, c'était le yoga, fallait tous aller au yoga, se faire enculer. Bon, je sais pas, tu vois, je sais pas en fait. Est-ce qu'à un moment faut essayer de s'attacher à ces milieux-là? Je vous en parlais dans le podcast des vraies choses. Ça serait vraiment bien de retrouver des personnages à l'ancienne. Et pour retrouver des personnages à l'ancienne, faut refabriquer des gens qui ont un parcours, qui sont sortis un peu des clous, quoi. Là, tout le monde marche bien aligné. Tout le monde fait ce que lui demande de faire l'État. Tout le monde est fliqué. Tout le monde a tué la vie qu'il y avait en soi pour devenir fonctionnel dans cette société de merde, remplie de cases à cocher dégueulasses, putain. Et vraiment, refaites-vous ces spécificités, voyagez, discutez avec les gens, confrontez-vous à des milieux qui peuvent peut-être vous effrayer, mais qui sont des milieux qui ont des histoires, qui ont un ancrage fort dans la tradition, tout ça. Moi, en tête, évidemment, avec ma culture du sud-ouest, couplé à ma culture espagnole familiale, évidemment, les trucs qui me viennent en tête, c'est la tauromachie, c'est le rugby, c'est la boxe, c'est des trucs comme ça, mais... Peut-être qu'il y a d'autres choses, je me rends pas compte, j'arrive pas à me décentrer là de ces souvenirs-là et de ces univers-là, mais putain, ça ferait du bien de revoir des catcheurs, de revoir des mecs, des reporters de guerre comme à l'ancienne. Je sais pas, je dis des trucs au hasard qui me sortent par le... Mais putain, c'était bien quand les gens étaient encore des gens, quoi. Voilà. Et que c'était pas une masse de clones dégueulasses décalqués, quoi, des décalcomanies. Moi, vraiment, je finis toujours mes podcasts de la même manière. Je vous enjoins à aller au-delà de ce qu'on vous propose. Aller au-delà des tendances, aller au-delà des trucs. Si on vous dit d'aller à tel endroit, ben allez dans l'autre. Oh, c'est vachement de tendance d'aller à New York. Ta gueule, en fait. Je vais aller au Centrafrique. Et le mec, il va dans les pires endroits du monde pour aller se faire un parcours. Ça finit à s'enrôler dans une milice avec Bob Denard et compagnie, tu sais, à faire du sale dans des villages de Loucharibangui, quoi. Pour le compte de Total. Putain, l'horreur. C'est le monstre. Le mec, il voulait se fabriquer une personnalité, un parcours. Il finit à faire du sale pour Total en Afrique, quoi. Le cauchemar, t'sais. Tu tournes à la coque et à l'héro parce que tu supportes plus ta vie, quoi. Oh putain. Même les guerres sont devenues aseptisées, en fait. Même les guerres. T'sais. Avant la guerre, c'était génial. Oui, voilà, j'ai pas peur de le dire. Avant, putain, mais le Vietnam, non, mais je suis désolé. Non, mais là, par contre, je vais dire un vrai truc. Quand tu vois les images d'archives du Vietnam, tu sais. Oui, 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 il y a eu des morts, tout ça. Oui, oui, oui. Mais le reste, c'était génial. Oui, il y a eu des massacres. Oui, oui, ils ont balancé des bombes sur des gosses. Oui, 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 oui. Mais le reste, les mitrailleuses, les hélicos, les lampes de torche dans les trous. Ça, c'est ma guerre. Les dernières guerres rigolotes, je crois que ça s'arrête au golf. Les derniers qui ont envoyé du rêve, c'est les Yougos, quoi. C'est les Yougoslaves. Ah, eux, ouais, ils ont fait du sale jusqu'à la fin. Les espèces de vêtements de la guerre froide avec les cols fourrés et tout. Les Serbes, ils ont envoyé du rêve jusqu'à la fin. Franchement, les Serbes, merci les Serbes. Et les Croates, du coup, puisque tout le monde participe. Les Bosniaques, ils se sont fait victimiser plus qu'autre chose, mais... De toute façon, pour qu'il y ait une guerre, il faut bien qu'il y ait des gens qui se fassent tirer dessus, donc merci d'exister. Mais je disais, les derniers mecs qui ont envoyé du rêve, c'est les Serbes, quoi. C'est les derniers à avoir foutu des rendus au rabat un peu en cuir à l'ancienne, avec des écussons un peu stylés, des camo 90, des Astava M77. Franchement, non, je vais déraper. Les dernières guerres marrantes, d'accord, pas marrantes, non, on efface. Les dernières guerres stylées graphiquement. Alors après, les Noirs travaillent toujours très très bien. Ça, on peut pas leur enlever parce que les gens disent oui, les Africains ils produisent rien. Les Africains font des guerres ethniques. Alors, il faut aller sur YouTube, il faut tomber sur les bons canaux. Mais moi, j'ai un péché mignon, c'est que je me fais du conflit armé en Afrique régulièrement pour me détendre. Je regarde ce qui se passe. Je regarde ce que font les poteaux. Écoutez, l'Afrique ne déçoit jamais. Pour ça, ils sont restés vieille école. Ça continue à mettre des trilles dépareillées avec des lunettes de soleil, à rouler à 150 à l'heure dans des pistes dans l'Oucharibangui, si tu veux. Bon, là, ça régale. Honnêtement, les Africains, pour ça, non, parce qu'on dit, oui, l'Afrique et tout, elle n'en voit pas de rêve. Franchement, sur ça, les mecs sont à la même hauteur que le Hollywood des années 90 en termes de cinéma chez les Américains. Pour moi, aujourd'hui, en termes de guerre, les Africains, avec les Afghans, alors les Afghans, depuis qu'ils sont libérés, ben, c'est redevenu nul, parce que l'Afghanistan n'existe que quand il y a de la guerre. Après, quand ça redevient des Afghans qui font juste être qu'Afghans, ben, en fait, c'est des gens qui font caca par terre et des gens qui se droguent, hein, c'est à peu près ça, et des femmes qui sont fouettées, donc c'est un peu nul. Mais quand ils font la guerre, les Afghans, honnêtement, ils envoient du style. D'accord? On en parlera dans un autre podcast, parce que j'ai un petit péché mignon, c'est de me regarder les documentaires de guerre. Et je vous avoue que les Afghans, ils régalent. Mais après, c'est fini. C'est fini, les guerres maintenant, c'est des informaticiens de merde avec des têtes un peu pourries là, de mecs qui ont fait ES, tu vois, qui ont des joysticks, alors ça envoie des drones, c'est un peu nul. C'est un peu nul, tout est de nuit, tu vois plus trop, c'est des frappes de très très haut. Il n'y a plus le côté artisanal du Vietnam. Le Vietnam, si tu... Non mais, pff, putain, les gars, allez vous faire les documentaires sur le Vietnam, mais... Les mecs s'appellent Johnson, Roberts. Il y a des écussons avec un drapeau sudiste. Le Texas, les Noirs, ils sont géniaux. Ils ont des panthères dessinées au marqueur sur leur casque. Ils sont géniaux. Quoi. Ils sont géniaux. Et puis t'as des hélicos qui décollent là. Putain, il y a de la grosse BO là, tu sais. Et là, ça survole le sud-est asiatique. Oh là, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est un gosse, un paysan, un Vietcong, je sais pas. Allume-le, Roberts! Blablabla! Puis après, t'as les mecs qui savent pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, la décence veut que quand t'es à la guerre, il faut que ça ait l'air professionnel. Donc tu fais pas des rafales de 3 heures. Tu fais des clac-clac-clac, clac-clac-clac-clac, clan-clan, clac-clac-clac-clac. Tu sais, il faut qu'on ait l'impression que tu vises quelque chose. Au Vietnam, les mecs se faisaient plaisir. Il y avait du budget déjà, donc ça envoyait. Donc des fois, t'as des documentaires du Vietnam, t'as un putain d'hélico Apache là, tu sais, qui est en train de survoler la lourde jungle, et t'as une espèce d'Irlando-américain là, avec un Afro-américain là de la banlieue de Los Angeles. T'sais. Ils sont dans le même hélico alors qu'ils se détestent parce qu'ils sont tous racistes jusqu'aux oreilles. Et là, ils ont, il y en a un qui a la mitrailleuse, bon, souvent le blanc, on va pas se mentir. Et là, ça fait. Et au sol, tu vois du dégât, tu sais, au sol, tu vois des mecs qui se font découper en quatre. Putain, et les bombardements du napalm, mais je suis désolé, oui, c'est dégueulasse, pardon pour les familles et tout, d'accord, d'accord. Là, je parle strictement d'un point de vue graphique, mais t'as des images du Vietnam, mais si tu veux, t'as l'avion qui survole, et puis derrière, tu vois... Tu vois une volute de napalm, et dedans, tous les communistes ont brûlé à 3000 degrés Celsius. Et c'est satisfaisant. Putain, mais je suis horrible. Mais oui, mais ouais, mais je suis obligé de le dire. À l'époque, ça y allait, tu vois. Et puis, t'as des images, les mecs, qui sont au front dans la jungle. Clac, 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 boum, boum, boum. Et après, deux secondes après, t'entends. Et tu vois, ils ont dératisé, déboisé 300 mètres de jungle, 300 mètres carrés de jungle. Et Alpha Tango pour Johnny Hotel, envoyez l'artillerie, blablabla, des tirs de barrage, ils s'envoyaient, et il y avait du pognon, voilà. Bon, alors t'as les journalistes de gauche qui venaient, qui disent, regardez, et t'as des mecs qui s'allument des Marlboro, et avec le même briquet, ils mettent le feu à la maison des gens, putain. Non, mais c'était horrible, mais c'était encore une guerre où ça lâchait des rafales devant les journalistes. T'sais, les mecs s'en branlaient, tu vois. Ils étaient tous drogués. Qui sur les hélicos, ils voyaient un truc qui était pas américain en contrebas, ils allument, tiens, ils allument. Il y a même un documentaire américain où tu les vois, les mecs, ils crèvent des buffles d'eau, ils en ont rien à branler, ils sont là pour dévaster, en fait. Putain, mais c'est des méchants de films, en fait. Ils arrivent dans un pays, ils tirent sur tout, tu sais, les cocotiers, les gens, les animaux, la terre, les enfants, ouais, c'est parti, con. Bah oui, mais c'est la guerre. Oh, putain. Et ben même les guerres modernes, elles sont devenues nulles. Aujourd'hui, c'est frappe israélienne à Gaza, je sais pas quoi, c'est un missile qui est parti d'un silo, qui a 4000 km, les gens qui meurent comprennent pas d'où ça vient. Au moins, il y avait quelque chose d'humain pendant la guerre du Vietnam, c'est que les gosses qui se faisaient démonter par un Apache, ils savaient que ça venait d'un Apache. Ils savaient qu'ils avaient tué. Là, t'es dans le sud Liban, il y a Moshe qui a envoyé un missile, ton immeuble s'écroule sur toi, t'as pas eu le temps de comprendre. C'est infernal. Bon, c'est de la provoque, là. Je rigole, les amis. Je rigole. Bon, les amis, fin du podcast. Je vous embrasse très fort. Merci de le suivre. N'oubliez pas d'être des vrais gens. C'est la consigne de la fin de ce podcast. N'oubliez pas d'être des vrais gens. Les amis, pas de podcast la semaine prochaine, comme je vous disais. Ils reprendront à partir du 17, 16 ou 17, je ne sais plus quand ça tombe le dimanche. Donc dans 15 jours. Entre-temps, vous aurez des vidéos. Et n'oubliez pas que bientôt, je vais lancer les lives à accès payant, les grands lives que je faisais d'habitude en allant en France, mais je ne peux plus les faire. Donc là, il y en aura un mensuel, mais je vous expliquerai exactement comment ça va se passer. Je vous embrasse les amis, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.